Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Radio Sommière vous emmène au parc du Lunari à Montpellier pour poser des questions à Enzo sur le rôle et le fonctionnement du parc. Bonjour Enzo.
Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe.
Pourquoi le parc s'appelle le Lunari ?
Alors, le parc dans lequel vous êtes s'appelle le parc de Lunari, en référence à un homme qui s'appelait Monsieur Henri de Lunari. Monsieur Henri de Lunari était un riche propriétaire terrien qui possédait dans les années fin des années 1800, début des années 1900, il possédait ce qu'on appelle le domaine de Lavalette. Le domaine de Lavalette, c'est un grand terrain de un peu plus d'une centaine d'hectares sur lequel aujourd'hui sont construits le zoo, le bois de Montmort qui est en face. Et tout le complexe d'Agropolis qui est en bas. Et toute cette zone-là, quand Monsieur Henri de Lunari était vivant, il en était propriétaire et il n'y avait pas tous ces complexes. Quand il a senti la fin de sa vie arriver, il a décidé de faire un legs à la ville, donc de donner à la ville de Montpellier son terrain, la gestion et la propriété du terrain. Et il y a eu plusieurs événements après sa mort, mais c'est plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, que le zoo a été construit et en hommage à ce monsieur, il porte son nom.
En quelle année et pourquoi le zoo a-t-il ouvert ?
Alors le zoo de Montpellier a ouvert ses portes en 1964, donc si on fait le calcul, on est sur les 60 ans du parc. Et donc il a ouvert à l'initiative de l'adjoint au maire, M. François Doumange, qui avait pris la gestion de ce site-là qui avait été légué par M. Henri de Lunari. Et quand ce monsieur a fait son legs, il a mis des conditions dans le legs. Et dans les conditions, il y a écrit qu'il faut que ce site fasse œuvre de bienfaisance. C'est-à-dire que le site serve aux Montpelliérains. Et servir aux Montpelliérains, ça a été traduit comme un site de service public sur lequel on va monter plein d'offres publiques et gratuites au public. Et donc, quand la ville a récupéré la gestion, en 1960, ils se sont dit, on va monter un parc zoologique qui sera gratuit pour le public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce parc qui est gratuit à Montpellier et on n'est que deux parcs gratuits en France.
Est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes ?
Alors ici, vous êtes dans la salle pédagogique à l'entrée du parc. Donc moi, je fais partie du service des publics. Donc le seul animal dont je m'occupe au zoo, c'est l'être humain qui est en liberté dans les allées. Nous, au parc de Montpellier, nous avons un devoir de pédagogie, comme tous les parcs européens. Pour répondre à ce besoin de pédagogie, on a monté cette salle pédagogique qui est fondée dans l'ancienne boutique. Et notre objectif ici, c'est d'avoir plusieurs zones de pédagogie avec un écran interactif, des objets de collection comme le grand squelette d'ours que vous voyez derrière vous, des modules d'exposition, etc. Et donc, on se sert de cet endroit pour accueillir le public avant de partir en balade dans le parc.
Peux-tu nous expliquer ton métier ?
Alors moi, je suis animateur scientifique et culturel. Donc, mon métier consiste principalement à être avec les publics et à aborder des questions de science en lien avec le terrain sur lequel on est, donc en lien avec le zoo. Donc, on a un catalogue d'animation qui va des tout petits, des moins de 3 ans, aux grands étudiants, adultes, etc. Et toute la semaine, on reçoit soit des classes, soit des centres de loisirs, soit des familles qui viennent en visite, en atelier, etc. Et notre objectif, c'est d'aborder avec eux des sujets de sensibilisation sur l'avenir, sur l'état de la planète actuelle, donc de changement climatique, de conservation des animaux, mais aussi de biologie pour mieux comprendre les animaux.
Quels sont les différents métiers présents au sein du parc ? Combien de personnes travaillent dans le parc ?
Alors, en termes d'agents, on est à l'année à entre 90 et 100 agents. Et en période estivale, donc en été, on a des saisonniers qui viennent nous prêter main forte. Et donc, on peut monter à entre 120 et 130 personnes. Les métiers, ça va être dur de tous les citer, mais je peux vous expliquer comment on fonctionne en termes de services, ce sera plus simple. Donc, on a 5 services dans le parc. Donc moi, je fais partie du service des publics, service pédagogique, où on est 6. Et notre objectif, voilà, c'est vraiment de faire le lien entre les sujets scientifiques qu'on aborde dans le parc et le public qui vient visiter. On a les deux gros services représentés, c'est le service animalier. Donc les soigneurs qui s'occupent des animaux à plein temps, qui est chapeauté par deux vétérinaires, qui s'occupent de tout ce qui est soins animaliers. On a le service sécurité. On est sur un site qui est soumis à un risque incendie très fort. Et donc, ils veillent à la sécurité du site. C'est pour ça que des fois, on a des jours de fermeture, etc. Donc là, ils sont une trentaine aussi, un peu comme les soigneurs. On a le service technique qui gère vraiment tout l'aspect technique du parc. Les travaux à faire dans les enclos, les barrières, les clôtures, les portails, tout ce qu'il y a à gérer dans le parc, mais aussi tout l'aspect technique de nos bureaux. Et le service administratif qui gère tout l'aspect administratif et financier, les ressources humaines, Tout cet aspect-là du parc où ils sont 7. Bon, alors après cette introduction dans la salle pédagogique, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se balader dans le parc et puis que on visite ce parc-là et que je réponde à toutes vos questions là-bas.
Mmh.
Peux-tu nous présenter les différents espaces du parc ?
Alors, vaste question. Le parc est assez grand. Il fait entre 60 et 80 hectares. Donc, c'est quand même très, très grand. Mais la zone sur laquelle il y a des animaux en enclos fait une trentaine d'hectares. Donc, c'est déjà divisé en plusieurs espaces comme ça. C'est-à-dire qu'on a toute une zone avec animaux exotiques en enclos et toute une zone qu'on appelle, nous, grand parc naturel, qui est une zone boisée, sauvage, dans laquelle on trouve plein d'animaux sauvages locaux, qui est un grand poumon vert de la ville, qu'on gère aussi, nous, équipe du parc, mais qui ne présente pas d'animaux. Et après, dans la partie vraiment zoo, pour laquelle la majorité du public vient ici, on a des espaces de convivialité, donc on a des zones avec des jeux, des tables de pique-nique, etc., qui sont éloignées des animaux pour éviter le dérangement sonore, etc. Et puis on a un certain nombre d'enclos avec pas mal d'espèces présentées dans les enclos.
Combien y a-t-il d'espèces dans le parc ? Combien y a-t-il d'animaux dans le parc ?
Alors, en termes d'espèces présentées au public, ça varie pas mal parce qu'on a des fois des départs et des arrivées d'animaux. Je crois qu'en ce moment, on est à entre 31 et 32 espèces présentes, vues par le public. On a d'autres espèces que le public ne voit pas parce qu'il y a quelques espèces qui sont encore dans la serre amazonienne ou on a des espèces qu'on gère, nous, dans un espace qu'on appelle la quarantaine. Ça peut être des animaux de saisie ou des animaux qu'on doit isoler du public, etc. Et si on prend la totalité des espèces, même non visibles, on est à 41-42. Donc on a une dizaine d'espèces non visibles du public. Et après, sur le nombre d'animaux, ça va être dur à quantifier parce qu'on a par exemple une colonie de chauves-souris qui représente à elle seule 500... Enfin, maintenant, ils sont un peu moins, ils sont 300, 300 individus. Mais on est entre... ça va être une grosse fourchette. On est entre 300 et 800 animaux en fonction de ce qu'on compte, si on compte ceux qui sont visibles ou pas, etc.
Est-ce que c'est beaucoup ?
Alors, c'est une question complexe. Ce que je vais dire n'engage que moi. Ça dépend ce qu'on va chercher dans un parc. C'est-à-dire, nous, on a le retour qu'on a beaucoup du public, c'est qu'on ne voit pas forcément les animaux ou qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux par rapport à des parcs privés qui ont des grandes allées avec beaucoup d'enclos, etc. Nous, ici, ce qu'on cherche, c'est de mettre en ligne numéro 1 dans notre gestion le bien-être animal. Et ça passe aussi par... recréer le milieu naturel des animaux avec beaucoup de cachettes, avoir des espaces plus grands, des enclos de cohabitation avec plusieurs espèces au même endroit. Et donc, avec la place qu'on a, avoir cette quantité-là d'animaux, ça me paraît raisonnable. On pourrait augmenter en faisant de la cohabitation, parce qu'on n'a pour l'instant pas beaucoup de cohabitation. Mais en tout cas, on n'a pas volonté à avoir un grand parc avec des allées, avec plein d'enclos qui s'enchaînent et beaucoup d'animaux visibles en peu de temps. C'est pas ce qui est cherché ici.
Quels sont vos projets de recherche sur la biodiversité ?
Alors, en tant que zoo, on a une mission de recherche. Donc, on a pour mission d'accompagner et d'épauler les chercheurs dans leur mission de recherche. On en a pas mal sur le site. Alors, il y a deux volets. Il y a la recherche qui est faite sur les animaux exotiques. On a des recherches qui sont menées sur les vigognes, des recherches qui sont menées sur les girafes, sur les loups, sur les guépards, etc. Donc, il y a pas mal de chercheurs qui s'intéressent à ces animaux-là, soit pour mieux les connaître, soit pour mieux les conserver. Donc le fait de mieux les connaître et mieux connaître leur environnement, c'est mieux les conserver. Et on a un autre volet de recherche sur la biodiversité locale où on a des chercheurs de différents laboratoires, notamment on a un gros projet avec le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive qui vient faire un projet de recherche sur les mésanges. Et leur but, c'est de savoir quel impact l'être humain va avoir sur les mésanges et sur notamment la ponte et la reproduction des mésanges. Et donc, ils ont installé des nichoirs expérimentaux dans le parc qui leur servent de collecte de données. Et donc, ils viennent tous les ans voir la date à laquelle les animaux pondent, la taille des œufs, etc., etc., pour comparer ces données-là avec des zones où il n'y a pas de présence humaine, donc pour voir si l'humain impacte la reproduction des mésanges. Donc, ce genre de recherche, on en a pas mal sur le site. On a de la recherche donc sur les mésanges, sur les serpents, on va en avoir sur les tiques. Enfin, voilà, on a pas mal de choses. Comme notre terrain est un grand terrain naturel, ça nous permet de mettre en place des recherches avec les chercheurs locaux.
Comment recréez-vous les habitats naturels des animaux ?
Alors, on ne va pas recréer de manière stricte et parfaite l'habitat naturel de l'animal, puisque, par exemple, un animal comme le guépard, où on se trouve actuellement, qui vit en savane, va vivre avec des espèces à côté d'espèces végétales africaines, à côté d'espèces animales africaines, etc. Donc l'objectif, c'est de réussir à connaître l'écologie de l'animal, donc dans quel type de milieu il vit, avec quel type de végétation, pas forcément les espèces exactes, pour essayer de trouver le parallèle local. Notre objectif, c'est pas d'implanter non plus beaucoup de végétation exotique, etc. Donc c'est de faire avec les plantes qui poussent chez nous. Donc on va chercher des parallèles entre ces plantes-là, les plantes qu'on trouve sur le terrain, quel est son équivalent ici, ou quels sont ses équivalents potentiels ici, et ensuite surtout à quoi ressemble en termes d'agencement le paysage dans lequel vit l'animal. Par exemple, pour un guépard qui est un animal qui va courir sur des plaines, etc., on ne va pas faire le même type d'enclos que pour un puma, on n'en a pas ici mais c'est un exemple, que pour un puma qui a un autre félin qui va beaucoup grimper et donc qui aura besoin d'un enclos en hauteur. Donc on va surtout s'adapter à l'écologie et au comportement de l'animal.
Est-ce que vous mélangez des espèces d'animaux entre elles ?
Alors, oui et non. Ça s'appelle les enclos dans lesquels on mélange les animaux s'appellent des enclos de cohabitation. Les enclos de cohabitation, c'est assez demandé, on va dire, par l'Association européenne des zoos et aquariums. C'est une association dont on fait partie et qui donne un peu les bonnes pratiques des parcs pour respecter nos missions, mais aussi le bien-être animal. Et donc, ils préconisent depuis 2004 de faire un maximum d'enclos de cohabitation. Donc on va essayer de réfléchir, oui, à des enclos dans lesquels on va pouvoir mettre plusieurs animaux ensemble. Typiquement ici, on a un enclos de cohabitation de girafes avec des gazelles. On a les tamarins empereurs avec les porcs épics à queue préhensile à l'entrée. Voilà, on a plusieurs petits endroits comme ça. C'est pas forcément énorme pour l'instant. Et surtout, on peut pas le faire avec n'importe qui. Là, on est face au guépard. Bon, ben, on va pas pouvoir faire de la cohabitation avec du guépard. Le guépard, c'est un animal qui est solitaire et territorial. Donc, il vit tout seul sur son territoire. On doit le mettre tout seul dans son enclos. Sinon, on peut risquer des conflits.
Est-ce que toutes les espèces du zoo sont menacées ?
Alors, menacées, non. Par contre, elles sont toutes inscrites sur une liste rouge qui s'appelle la liste rouge de l'UICN. Ça veut dire l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette liste rouge-là, elle donne l'état des populations dans leur milieu naturel. Et donc, ça va du vert, qui est préoccupation mineure, où on considère que l'espèce n'est pas encore menacée, au noir, où là, c'est éteint. Et il y a plein de paliers entre-temps, et il y a différents paliers, il y a différents niveaux de menaces chez les espèces. Ça va du quasi-menacé, qu'on met en jaune, vulnérable en orange, en danger en rouge, en danger critique en rouge bordeaux. Ces quatre maillons de l'échelle-là, ils nous alertent un peu sur l'état des populations. Et on a tous les animaux du parc sont inscrits sur cette liste rouge-là. Ils ne sont pas tous dans des maillons menacés.
Comment préservez-vous les espèces menacées ?
Alors, dans notre mission de conservation, il y a deux grands aspects. On a, je vais donner des termes un peu techniques, on fait de la conservation in situ et de la conservation ex situ. La conservation in situ, ça va être toutes les associations qui travaillent sur le terrain des animaux. Donc, par exemple, pour le guépard, ça va être travailler directement en Namibie pour remettre en état le terrain, pour réaccueillir des guépards, etc. Donc ça va être toutes les structures qui travaillent sur le terrain même des animaux. Nous, agents du zoo, on ne va pas aller en Namibie pour aller travailler pendant une semaine. Donc en tant que zoo, on a une obligation de financement de ces associations-là. Donc chaque année, il y a une enveloppe qui est dédiée à financer ces associations-là pour les aider à fonctionner. Ça, c'est notre obligation de participation à la conservation in situ. Et après, sur la conservation ex situ, ça, c'est la conservation qu'on fait, nous, directement ici en parc zoologique, donc à l'extérieur du territoire des animaux. Et en conservation ex situ, ce qu'on fait, c'est qu'on va notamment faire des programmes de reproduction pour essayer de maintenir l'état des espèces en captivité. Donc, chaque espèce a un coordinateur européen. Donc, il va y avoir un coordinateur européen pour le guépard, un coordinateur européen pour le dromadaire, etc., etc. Et c'est ce coordinateur européen-là qui connaît toutes les populations animales d'Europe, qui va placer les animaux et surtout qui va donner les feux verts pour la reproduction. Et qui va nous dire à tel endroit, vous avez le droit de reproduire, à tel endroit, non. Quand on a de la reproduction, il va nous dire, tel petit, il va partir à tel endroit quand il aura l'âge d'être indépendant, etc. Donc c'est ces coordinateurs-là qui vont gérer vraiment les programmes de conservation pour maintenir la population en captivité d'Europe assez stable et s'assurer d'une diversité génétique.
Comment et avec quoi nourrissez-vous les animaux ?
Alors ça va dépendre du régime alimentaire des animaux, ça va pas être la même chose pour un carnivore et pour un herbivore. Ça c'est le travail des soigneurs, donc en fait les animaux ils sont dans des enclos, mais derrière les enclos il y a ce qu'on appelle des sas, qui sont des plus petits enclos, qui sont des zones tampons qui relient à un bâtiment. Et donc pour les animaux pour lesquels on peut pas aller avec eux dans l'enclos parce qu'ils sont animaux sauvages considérés comme dangereux, donc il y a une grande partie d'animaux avec lesquels on ne va pas dans les enclos, on doit les faire passer d'un endroit à un autre pour que les soigneurs puissent préparer l'endroit pour le nourrissage, notamment. Donc par exemple, la nuit, je prends l'exemple des guépards, la nuit les guépards sont dans leur bâtiment, quand le soigneur arrive, il les fait sortir en sas, Et une fois que les animaux ne sont plus dans le bâtiment, il peut rentrer dans le bâtiment, le nettoyer et préparer la nourriture pour le midi ou pour le soir. Et quand l'animal va rentrer, il aura sa nourriture dans le bâtiment. Pour des herbivores comme les girafes par exemple, quand on arrive, bon, on va s'assurer que tout va bien dans le bâtiment. Et ensuite, on va dans l'enclos tant que les girafes ne sont pas là. On nettoie l'enclos, tous les cacas qu'il y a de la veille, etc. On prépare la nourriture, donc on leur met des branchages frais qu'on attache à des troncs d'arbres. On leur met de la nourriture dans des grands paniers à 5 mètres de haut. On leur met des granules, on leur allume les sources d'eau, etc. Et ensuite, on peut les faire sortir dans le bâtiment, dans l'enclos. Et elles ont tout ce qu'il faut pour manger pendant la journée. Et en parallèle, on prépare le bâtiment pour leur rentrée du soir, pour qu'elles aient à manger pendant la nuit.
Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents ?
Alors, des accidents avec les animaux, de gros accidents, non. Maintenant, bon, les normes des parcs zoologiques évoluent. Je vous le disais tout à l'heure, ça a ouvert il y a 60 ans, donc c'est plus les mêmes normes. On a une petite anecdote qui date de depuis l'ouverture du parc, enfin de quelques années après l'ouverture, où on avait déjà des guépards et les soigneurs ont trouvé des petits chats dans les allées du parc et ils ont mis un certain temps avant de se rendre compte que c'était des bébés guépards qui étaient sortis de l'enclos. Bon, finalement, on les a remis. Donc ça, il n'y a rien eu de grave, mais voilà, on voit que les normes de sécurité n'étaient pas forcément les mêmes à l'époque. Il y a une anecdote un peu plus récente, donc d'un casoar. C'est un grand oiseau cousin de l'autruche aussi qui vient d'Océanie. Et donc le casoar est un animal qui est considéré comme très dangereux. Et une fois, il a voulu sauter non pas de son enclos à l'extérieur, mais de son enclos à l'enclos d'à côté, puisqu'ils sont, comme les guépards, ils sont isolés, ils sont territoriaux, donc chacun dans leur enclos, il y a trois enclos. Et en fait, entre les enclos, il y a un petit jeu, il y a un double grillage, et en fait, le casoar s'est coincé entre les deux grillages. Donc comme c'est un animal dangereux, bah, il a fallu aller le sortir, et là, ça a été plus compliqué. Mais on n'a jamais eu de gros problèmes avec les animaux. Alors, je ne sais pas comment ils ont géré celui-là, moi, j'étais pas là, mais il y a plusieurs solutions, oui, soit on l'endort, soit on arrive à le calmer par différents moyens. Les animaux, ils sont soumis à du training médical où on les entraîne à faire certaines choses. Et parfois, ça permet de faire des actes médicaux de manière assez calme. Typiquement, aujourd'hui, on réussit à faire des prises de sang sur la queue d'un lion pendant qu'il est réveillé dans son bâtiment, etc. Donc peut-être qu'avec le training médical, on peut aussi calmer un animal qui est comme ça en mi-évasion, on va dire.
Quelles sont les nouveautés au sein du parc ?
Alors le tout dernier gros chantier qui a terminé, on va dire, c'est la rénovation de l'enclos des tapirs et des nandous. Le tapir, c'est un animal, donc c'est, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, on va dire que c'est un très gros cochon d'Amérique du Sud qui vit en forêt tropicale. Il fait à peu près 250-300 kilos. Et c'est un animal qui nage très très bien, c'est un très bon nageur. Et il a besoin d'être dans l'eau, non seulement pour son bien, mais aussi pour faire ses besoins. C'est un animal qui ne peut faire ses besoins que dans l'eau. Et donc avant, ils avaient un bassin dans lequel ils n'étaient pas totalement immergés, dans lequel ça leur permettait juste de mettre les pattes, etc. Et là, l'objectif, c'était vraiment de faire un nouvel enclos avec un grand bassin dans lequel ils pouvaient s'immerger totalement, un peu nager, et de refaire en profiter pour refaire totalement le point de vue où on ne voyait pas forcément bien les animaux quand on est public, et de replanter toute une nouvelle présentation végétale dans l'enclos.
Quel est ton souvenir marquant ?
Eh ben, je dirais que c'est quand je suis arrivée ici. Moi, j'étais pas du tout destinée à travailler en zoo au départ. C'était pas un monde qui m'attirait du tout. Moi, j'ai fait des études en culture scientifique, en médiation scientifique pour faire de la science et de l'éducation à l'environnement avec le public. Mais je m'étais même pas posé la question des zoos. Et je suis arrivée ici un peu par hasard. Et en fait, j'ai découvert un univers qui est complètement nouveau. Il faut savoir que même en ayant fait des études scientifiques, quand je suis arrivée ici, j'ai eu bien 2 mois d'acculturation pour emmagasiner tout ce que c'était réellement et concrètement le monde des zoos, avant de pouvoir ne serait-ce que bah, l'expliquer au public. Donc, forcément, toute cette période d'acculturation, bah, tous les jours, j'apprenais des nouvelles choses. J'allais au plus près des animaux, j'étais invité par les vétérinaires à des séances médicales pour voir ce qu'ils faisaient, j'étais invité par les soigneurs à nourrir les animaux. Enfin, je m'imprégnais du monde-là et c'est vrai que j'ai passé un à deux mois assez nouveau et merveilleux.
Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ?
Et alors, si j'ai fait ce métier, c'est principalement pour le contact avec le public, forcément. Ce moment de transmission et d'éducation avec le public, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Maintenant, ce que je préfère, c'est compliqué à dire. Aujourd'hui, je suis sur un poste d'animateur. Donc vraiment, 80% de mon temps, c'est de l'animation. J'ai pas toujours fait ça, j'ai aussi fait de la gestion de projet à côté avant dans d'autres expériences. Et notamment, bah, monter des événements ou monter des projets, c'est quelque chose qui me plaît bien.
Quels sont les projets futurs du zoo ?
Alors le zoo là va rentrer dans une grande phase de réhabilitation. Il restera gratuit, il restera public. Par contre, on va rentrer dans une grande période de travaux qui va commencer en 2025 et qui va courir sur plusieurs années. L'objectif, c'est vraiment de refondre totalement le parc, presque totalement, pour améliorer et les conditions des animaux et le bien-être animal et aussi nos missions. C'est-à-dire que tous les animaux qui seront présents au zoo, ce seront que des animaux qui seront intéressants en termes de conservation et de pédagogie. Donc c'est vraiment un mix qui a été fait sur le choix des animaux qu'on aura. Les enclos qui vont être refaits ou refondus, ça sera que des enclos de cohabitation, comme j'en parlais tout à l'heure, pour essayer de respecter le bien-être animal. Et la manière dont sera agencé le parc en lui-même va aussi respecter des thématiques pédagogiques. Alors, c'est une volonté de la mairie qui s'inscrit dans le projet Grand Parc du Lunaret. Donc, le maire a pour projet de réunir ces zones-là donc, que je présentais au début, qui sont le Bois de Montmort, le parc de Lunaret et le domaine de... Agropolis en bas, qui sont le grand domaine de Lunaret de l'époque. Son objectif, c'est vraiment de réussir à réassembler toutes ces zones-là en tant que gros poumon vert de Montpellier, qui deviendra officiellement le plus gros poumon vert d'Europe. Dans ce projet Grand Parc-là, nous, le zoo, on existe encore, et donc l'objectif, c'était aussi de profiter de ce projet-là pour refondre le zoo, le remettre à jour, parce qu'il n'y a pas eu de très gros travaux depuis longtemps. Il y a déjà eu un projet, mais qui a été avorté à l'arrivée de la nouvelle mairie. Donc l'objectif, c'est de remettre un projet de réhabilitation... Voilà.
Merci Enzo d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous et avec plaisir.